Je suis désolé pour ceux qui sont là en visite aujourd'hui parce qu'on est dans une série et donc vous allez prendre le train en marche. Mais je vais faire juste un petit rappel. On est en train de parcourir ce manuel qui s'appelle La Grande Histoire. Et donc c'est le fil rouge de la Bible. Et on arrive à l'avant-dernière session, la session numéro 11. Et donc la dernière fois c'était la 10. Et on avait une session qui s'appelait Triomphe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message. Et donc, c'était une situation qui, au départ, était un peu noire. Les disciples étaient dans le Schwarz. Après le silence de tombeau, la peur de l'arrestation et surtout un sentiment horrible de s'être fait dupé par Jésus, trompé. Et donc, il y avait un fort sentiment de déception et on voit quand les femmes arrivent avec la nouvelle de la résurrection, elles vont au tombeau, elles tombent pas, mais deux anges s'adressent à elles, leur dit que Jésus est ressuscité, qu'elles n'ont pas à chercher ici, parmi les morts, celui qui est vivant. Et donc, elles retournent le dire aux apôtres qui, eux, se placent en grand frère, en disant « Vous êtes gentils !» Et ils ont considéré leurs propos comme des niaiseries, hein, des délires. Et donc, ils n'y croyaient pas jusqu'au moment où Pierre est allé se rendre au tombeau. Il a vu les bandelettes bien pliées soigneusement au sol. Et là, il a commencé à réaliser que le Jésus qu'il suivait n'allait pas régner sur Jérusalem en maître, n'allait pas éjecter les Romains de Jérusalem, mais qu'il était probablement le Messie souffrant. Mais ça va encore prendre un petit moment avant vraiment de s'installer. Et donc ce sentiment, en tout cas, le fait d'être là dans une incertitude, eh bien ça me rappelle une situation que j'ai vécue. Hein. C'est comme si les apôtres étaient en panne. Et ça me rappelle une situation où j'étais, moi, étudiant à la fac. Et l'année dernière, hein, c'est ça, presque. En tout cas, à cette époque, je possédais une voiture magnifique. C'est une Renault 5, hein. Il y a les nouvelles qui sont sorties, mais 40 ans plus tard. Non, 35, quand même. J'avais cette voiture-là. Alors ça c'était pas la mienne exactement, mais ça ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau à ça. Et alors c'était pas le top de la voiture, mais ça faisait le job. Hein. Et donc je l'utilisais chaque jour pour me rendre à mon entreprise parce que j'effectuais un stage. Et comme l'entreprise était perdue dans la nature, au milieu de la Loire, eh bien j'avais pas le choix. Il me fallait une voiture. Et donc le vendredi, quand je terminais le travail, il fallait que j'aille faire mon contrôle technique. J'y suis donc allé. Et puis j'ai attendu et au bout d'une heure, le verdict est tombé. Votre voiture ne doit plus rouler, monsieur. Ah, pourquoi ? Vos amortisseurs sont à changer et plein une liste longue comme le bras. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez ? Vous avez déjà ressenti ce genre de petites choses, ce sentiment d'impuissance ? Voilà, je suis étudiant, j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour gérer ? Il me faut absolument ma voiture. Vers où me tourner ? Et donc ça, c'est un sentiment qu'on a tous ressenti à un moment donné. Et c'est là où un ami intervient. En fait, c'est un ami que j'avais de longue date. On allait en boîte de nuit ensemble, mais lui était un peu à part. Lui, je l'ai gardé un peu plus longtemps que les autres. En fait, cet ami était passionné de mécanique. Et donc lui, il s'était arrêté avant moi au niveau des études. Mais il avait donc travaillé pendant plusieurs années et année après année, il était chez ses parents, donc il a mis de l'argent de côté et il s'est acheté la voiture de ses rêves. Et c'était celle-là, ça, la voiture de ses rêves. Une 205 GTI 1,9 litre, un petit bijou. Donc là, ça vous dit peut-être rien, mais cette voiture-là valait beaucoup plus cher que ma Renault 5, n'est-ce pas ? Et donc, il était fier de sa voiture. J'ai jamais vu une voiture briller autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il la bichonnait, il était maniaque au possible. Et donc, moi, j'étais juste le touriste, hein. Je m'installais à côté et puis on allait se faire des petits tours sympas. Et puis, Voilà, donc je lui expose ma situation. Je lui dis, écoute, là, je suis vraiment dans la galère parce que je peux pas payer mes factures et il faut absolument que j'ai une voiture. Je sais pas quoi faire. T'aurais une solution? Et il réfléchit, puis il me dit, bah, écoute, Franck, moi, je te propose un truc. Je vais prendre ta voiture pendant la semaine. Je vais faire les réparations. Je te demande juste une chose, c'est que tu vas payer les pièces. Et moi, je te fais cadeau de la main d'œuvre. Comme il était passionné de mécanique, j'avais totalement confiance en lui. Et là, je me dis, oh, soulagement. Et je me suis dit, merci Seigneur. C'est une grâce, quelque part. C'est vraiment un beau cadeau, hein. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine? J'aurai quand même pas de voiture. Et c'est là où il y a un autre truc qui s'est passé. C'est que mon ami m'a regardé, il a fouillé dans sa poche et il m'a dit, tiens, je te donne les clés de ma voiture. Celle-ci. Tu roules avec toute la semaine et à la fin de la semaine, tu me la ramènes. Waouh! Oh! Et oui, il l'a fait, véritablement. Et donc, j'ai roulé pendant une semaine au volant de ce bijou-là. Je ne roulais pas du tout comme avec ma super Renault 5. J'avais vraiment peur de l'abîmer, hein. Quand j'arrivais sur le parking, je me garais à 5 voitures du premier, le plus loin possible. Je voulais pas les gratiner. Dès que je passais une vitesse ou que je faisais un créneau, je regardais devant, derrière, un peu de partout. Il n'y avait pas de radar à l'époque, hein. Donc, et j'avais peur. Parce que cette voiture, elle ne m'appartenait pas, en fait. Elle m'était offerte comme un cadeau. Et donc, je l'ai reçue, mais en même temps, je tremblais. Et donc, j'en ai pris le plus grand soin. Et donc, je fais ici... Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que, en fait, ça reflète vraiment bien le cadeau que Dieu nous offre dans le salut. Dieu nous offre une voiture toute neuve, flambant neuve, toute étincelante. Alors que nous, on est en panne, on est sans solution, dans la galère, on n'a pas les moyens de payer, en fait. Et donc, la manière dont on va conduire notre vie derrière, eh bien, ça va dépendre de notre compréhension du prix que cette voiture a coûté au propriétaire. Je vous laisse avec ça, je vais reprendre cette illustration tout au long du message. Et donc, ce matin, on va survoler... Au travers de ce manuel, on nous propose 3 textes du Nouveau Testament qui parlent du salut et on va les prendre les uns après les autres et donc essayer de répondre à ces questions. L'objectif aujourd'hui, c'est découvrir comment les premiers chrétiens se sont réunis et pourquoi, découvrir quel était le contenu de leur foi et la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et donc, ce matin, c'est moi qui vais lire le premier texte dans le livre des Actes. Vous pouvez prendre ça dans vos Bibles ou dans les manuels. Et sinon, vous pouvez suivre derrière moi. Actes, chapitre 2, et les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, les croyants, quand ils lisent ce texte, ils le connaissent évidemment, parce que c'est un texte clé que beaucoup utilisent, en tout cas, au moins pour les 4 grandes disciplines d'une vie d'Église. Et donc, ici, on va essayer de répondre au fur et à mesure avec les questions qui nous sont proposées. Quel est le contenu des rencontres de ces premiers chrétiens? Et là, on le lit au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers de la foi évangélique. Et vous avez vu qu'il y a un petit terme qui est devant ici. Le premier verbe. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Et c'est un mot qui est quand même hyper important ici. Ça veut dire qu'il faisait pas ça à la légère. C'était pas une émotion passagère. Il le faisait intentionnellement d'une manière disciplinée, par amour pour le propriétaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, la première des choses, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En fait, il voulait connaître le manuel du constructeur. Ils étudiaient comment Jésus expliquait toute l'histoire. Et la Bible, et en particulier l'enseignement des apôtres, eh bien, c'est eux qui ont rédigé le Nouveau Testament. C'est cet enseignement-là, donc ce que nous on a aujourd'hui dans nos Bibles, c'est le Nouveau Testament, était au cœur de l'Église. Et c'est aussi pourquoi, dans cette Église, nous sommes attachés à enseigner la Bible. Alors nous, on le dit verset par verset, c'est ce qu'on fait ici, mais c'est important de regarder ce que les Écritures disent, parce que c'est le socle, en fait, de ces premiers chrétiens. Donc vous voyez, c'est historique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais pas seulement. Et il y a la Bible, c'est fondamental, mais il y a ce qui l'accompagne est aussi fondamental, et la deuxième chose, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est un mot qu'on dit facilement, mais on percute pas toujours avec ce que ça veut dire vraiment. Communion fraternelle. Ça signifie déjà une chose, c'est qu'il ne faisait pas que des études bibliques. D'accord? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Donc une église où il y aurait la rencontre du dimanche et une étude biblique en semaine, on est à côté déjà, vous voyez. Il faut vivre la communion fraternelle, ça fait partie des choses essentielles que les premiers chrétiens vivaient. Et on va voir jusqu'où ça nous mène, parce que c'est pas un texte anodin qu'on a ici. Si vous pensez que c'est un texte fondamental, que la plupart des chrétiens, et là je vous rappelle qu'on était au tout début de l'Église, donc c'est les basiques, c'est juste l'essentiel, on va dire. On va beaucoup plus loin après dans les épîtres, dans les interactions les uns les autres, mais là c'est la base. Et on voit déjà que cette base-là, donc pour des jeunes convertis, était très forte, très forte. Alors comment on sait qu'il vivait la communion fraternelle et qu'elle était authentique? Eh bien simplement en observant le texte. Vous avez vu ce qu'ils faisaient? Ils partageaient leur vie. Et ça c'est le signe qu'on vit la communion fraternelle lorsqu'on offre sa vie aux autres. C'est ça la véritable communion fraternelle, offrir sa vie aux autres. Donner de son superflu, c'est déjà pas mal, on va pas cracher dessus, donner son superflu, mais ça, les non-croyants, ils font ça très bien. La communion fraternelle, c'est surnaturel. Ça nous vient du Saint-Esprit et de notre union, de notre communion avec Christ. Si on est en communion avec Jésus, alors on est en communion aussi avec les frères et les sœurs. On appartient à la même fratrie, on appartient à la même famille, communion fraternelle, vous pouvez parler d'une famille ici parce que c'est un synonyme quelque part. Et en fait, si on réfléchit bien, dans une famille, lorsqu'un enfant manque de quelque chose ou qu'il est malade, les parents agissent en général. Ils se disent pas, oh ben, il y a bien quelqu'un qui va prendre soin de lui. Non, non, dans notre famille, on est proactif. Quand on a un enfant qui a de la fièvre, on va lui donner des médicaments, on va le conduire chez le médecin, on va prier aussi bien sûr pour lui, mais quand même, on prend les choses en main, vous voyez ? On est proactif. Et la communion fraternelle, elle se vit pas simplement en venant au culte, en regardant, en prenant son petit café. Ça, c'est sympa. Mais les non-croyants vivent exactement la même chose. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est insuffisant. Voyez, la communion fraternelle, elle doit se vivre en partageant, et Jésus nous a laissé un modèle. Juste avant d'être arrêté, voilà ce qu'il dit à ses apôtres, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Dans la loi, aimez-vous les uns les autres était clairement enseigné. Lévitique 19-18, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc là, on parle bien de la communion fraternelle, les enfants de ton peuple. C'est vraiment la fraternité ici. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous connaissez ce texte. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, on a du niveau là. Si on arrive à aimer les autres et à prendre soin des autres comme on prend soin de nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Mais Jésus, il va légèrement plus loin. 5 mots, il rajoute juste 5 mots. Et c'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Comme je vous ai aimé. 5 mots qui changent tout. 5 mots qui changent tout. C'est le modèle à suivre pour la communion fraternelle dans l'Église. Ça va loin ici, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Comment il nous a aimés? Allez, je veux l'entendre de votre bouche. Jusqu'au sacrifice de sa propre vie. C'est un peu plus qu'une rencontre sympa une fois par semaine, avec un café offert. C'est un peu plus qu'une soirée toutes les 2 semaines avec un repas offert. C'est un peu plus que 2 week-ends par an. Mais c'est ça la réalité, et c'est ce qu'il vivait au quotidien. Il partageait tout. Et comme les disciples percutaient pas très vite, comme nous, parce que ça vous l'avez déjà entendu, et ben ils répètent ça 2 chapitres plus loin. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est martelé, les amis. Ça veut dire que c'est pas naturel. Quand Jésus répète plusieurs fois les mêmes choses, c'est qu'il faut que ça rentre à un moment donné. Donc à nous de l'intégrer et de comprendre ce qu'il disait aux apôtres ici, aux disciples. Il le dit aussi à nous. Donc vous voyez que c'est ça la véritable communion fraternelle. C'est partager sa vie jusqu'au sacrifice. Réfléchissez-y parce que on a parfois dans l'Église tellement de difficultés à faire bouger les gens. Je le constate. Et je sais que c'est pas facile. On travaille tous, difficilement, durement, en Suisse en particulier, avec les 42 heures minimum. Et je sais que les cadres, vous en faites beaucoup plus. Donc il n'y a pas de culpabilisation à avoir ici, mais simplement à réfléchir. Ok, ça me coûte, mais est-ce que ça me coûte aussi cher que ce que ça a coûté à Jésus ? Ouais. Il faut toujours se comparer à Jésus, pas aux autres. C'est trop facile, ça. En fait, notre référentiel, c'est Jésus. Et la communion fraternelle, c'est toujours Jésus, notre référentiel. Parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui fait plus ou qui fait moins que vous. Donc, votre référence, ça reste Jésus. Et Jésus, il nous commande ça, comme je vous aimais. C'est ça, la véritable communion fraternelle. Ok, c'est un bon petit rappel pour nous, hein. En tout cas, c'est ce qu'il se vivait dans l'Église, mais il persévérait aussi dans la prière, la fraction du pain. Ça, c'est la première chose. Et donc là, il s'agit pas seulement des repas en commun, les agapes, mais aussi la Sainte Cène. Surtout, je pense, ici, il parle de la Sainte Cène. Et donc, c'est un rappel. Chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, on se place devant Dieu et on dit « Waouh, merci d'avoir payé le prix de mon pardon ». Ça t'a coûté cher à toi. Le pardon éternel a coûté ton sang et ton corps. Tu as été meurtri pour moi. Et c'est ce rappel qu'il faisait chaque jour. Il persévérait. Chaque jour, ils étaient dans le temple. Et on imagine qu'il faisait aussi ça chaque jour. Donc, nous, on le fait qu'une fois par mois. Mais il n'y a pas d'imposition ici. C'est simplement un constat, vous voyez ? De même que le partage de tous leurs biens et la vente de leur propre maison, ça reste aussi circonstanciel, mais ça nous montre une chose, c'est que la communion fraternelle, elle doit être empreinte de générosité. Ils sont allés loin dans cette générosité, mais parce que les circonstances le dictaient. D'accord ? Et je pense que c'est ça, en fait. Il n'y a pas d'imposition d'une vie ascète où on doit tout donner. La preuve, c'est que si vous lisez bien le texte, ils se réunissaient où ? Au temple, et ils mangeaient où ? Dans les maisons. Ça veut dire que tout le monde n'avait pas vendu sa maison, sinon ils se réuniraient dans la rue. Donc, vous voyez, on peut pas être trop littéral non plus avec cette application ici. Donc, il y avait cette fraction du pain et les prières, et c'est ce qu'on a fait ensemble. Et vous avez que c'est les prières, c'est pas la prière. Elle a sa place, la prière individuelle, mais là, c'est une prière communautaire. Et comme c'est difficile, je sais, pour les uns et les autres, on le fait dans les groupes de maison, on a aussi une réunion de prière ici, et comme elle est peu fréquentée, eh bien, on s'est dit, ça serait chouette de pouvoir prier ensemble pour des sujets qui nous concernent dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on le fait le dimanche matin. C'est pour ça que Pascal, ce matin, a pris un sujet et on veut vraiment prier les uns pour les autres parce que c'est important de nous rappeler qu'on est en famille et que ton problème, c'est mon problème. Si tu souffres, je souffre. Si tu es dans la joie, je suis dans la joie, etc. Vous voyez, on est vraiment en famille ici et on essaye de le vivre. Deuxième question, quelle impression se dégage de leur mode de vie? Ah ben, il y en a deux, un peu paradoxal on dirait. La crainte s'emparait de chacun. On se dit, waouh, la crainte. Alors oui, il y avait des miracles et des prodiges qui avaient lieu, et on se dit, mais pourquoi la crainte? Pourquoi la crainte? Mais c'est un peu comme avec cette voiture, on leur confie un salut extraordinaire, précieux. Quand... moi, j'ai pris cette voiture, j'avais les clés, je me suis dit, waouh, elle est géniale cette voiture, mais je tremblais à l'idée de l'égratigner, vous voyez. Et donc, c'est un petit peu ça, ils tremblaient parce que ils avaient reçu un salut si grand qu'ils ne méritaient pas, et donc, ils tremblaient. Et il y a la suite, ensuite, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous. Ça, je viens juste d'en parler. Quel en est le résultat? Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je relève deux choses ici. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Lorsque les voisins observaient ces chrétiens, qu'ils voyaient leur vie, leur solidarité, leur générosité, leur ferveur, ils disaient « Waouh, je comprends rien à leur doctrine, mais moi je veux vivre ce qu'ils vivent ». C'est exactement ce que j'ai fait lorsque je me suis converti. Moi, je voulais pas de la religion. Je voulais pas de tout ce qui était bigoterie. Par contre, quand j'ai vu ces chrétiens qui vivaient d'une manière authentique, mes amis, je me suis dit, waouh, ça, je veux le vivre. Ça, je veux le vivre. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque. Les gens voyaient ces chrétiens et ils disaient, waouh, c'est impressionnant ce qui se passe ici. C'est pas naturel. Vous voyez? Et oui, c'est pas naturel. La communion fraternelle vécue avec le Saint-Esprit, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Et elle va très loin. Ils partageaient tout. Et il y a une autre chose, et ça, c'est le deuxième aspect que je veux relever ici. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église grandissait. Et c'est pas parce qu'il y avait une propagande. C'est pas ça. C'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'Église. Voyez, on n'a pas à faire du marketing. Vivons simplement l'Évangile comme il nous a enseigné. Vivons la véritable communion fraternelle et elle va être contagieuse, elle va être attirante. Missiologiquement, on dit attractionnelle. On est attractionnel. Oui, on va attirer, mais pas pour des mauvaises choses. Pas parce qu'on a un super prédicateur, c'est en plus pas le cas. Mais pas parce qu'on a une super louange non plus. Non, c'est parce qu'on a une vie fraternelle cohérente. Parce qu'on vit avec Jésus, parce que ça se voit, parce que ça se sent. Les gens la sentent, cette authenticité. Et si elle est absente, s'il n'y a pas de relation les uns avec les autres, les gens viennent, ils assistent à un spectacle quelque part. On est des petites marionnettes, voyez. On ne se connaît pas les uns les autres, on n'a pas de lien les uns entre les autres. Et puis au final, on vient, puis on repart. Moi, je me pose la question, si notre Église ne grandissait plus, alors là, il y a quatre baptêmes, alléluia. Mais, et ça ne dépend pas de nous, hein. C'est le Seigneur qui ajoute, on est d'accord. Mais on doit quand même se poser la question, est-ce qu'on vit vraiment ce que le Nouveau Testament nous donne comme standard quelque part? Ça, c'est une question qui m'interroge. Quel a été le résultat quand mon ami m'a prêté sa voiture? C'est pas simplement que j'ai pu me rendre à mon stage, ça c'est super. Mais en fait, mon regard a changé sur lui. J'ai vu sa générosité, j'ai vu son sacrifice, et vraiment ça m'a touché profondément, au point que j'ai eu envie de l'honorer. Et c'est pour ça que je tremblais. J'ai voulu l'honorer et ne pas abîmer sa voiture. Et en même temps, j'ai voulu lui ressembler. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette situation. Les gens à Jérusalem n'ont pas seulement vu des gens religieux, ils ont vu des gens qui conduisaient leur vie avec une telle reconnaissance, une telle prudence et une telle joie, parce qu'il savait ce que ça avait coûté à Jésus. Que tout le quartier a eu envie de monter dans la voiture avec eux. Et c'est ça, ça donne envie aux autres de vivre la vraie communion fraternelle. Allez, je m'arrête ici et on va passer à un autre texte. Et donc, après avoir vu comment l'Église primitive conduisait sa nouvelle vie, eh bien, on va s'arrêter sur la mécanique. En fait, comment ont-ils eu les clés? Et on va lire ce texte fondamental dans l'Épître aux Romains. Ce matin, on a le pompon du pompon, les deux textes les plus explicites sur le salut, en tout cas pour moi. Romains 3, 21 à 26. « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Et la première question qui vient sur ce texte, c'est comment se manifeste la justice de Dieu? Sur qui est-elle tombée? Alors Paul nous dit la chose suivante, « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi, par la foi en Jésus-Christ. » Donc vous voyez, c'est assez révolutionnaire. C'est indépendant de la loi. Peut-être que ça vous dit rien, mais les Juifs, eux, ils ont pas pris ça pour rien, en fait. C'était une phrase très forte, parce qu'ils pensaient que c'était en accomplissant la loi qu'ils allaient être sauvés. C'était faux, mais c'est ce qu'ils pensaient. Et là, il dit, la justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas appliquer ou ne pas appliquer la loi, c'est parce qu'il y a une autre justice qui vient ici et qui se vit par la foi, elle se manifeste par la foi en Jésus. En fait, dans toutes les philosophies humaines, toutes les religions, je vais dire, ou les spiritualités, la justice, c'est une sorte d'échelle. Plus on fait du bien, plus on monte sur l'échelle. Plus on applique la loi, plus on mérite le ciel. Et si on commet une infraction, ben on paye l'amende. D'accord ? Et là, donc, on va compenser en faisant des bonnes œuvres, en faisant du bien autour de nous. On va augmenter nos dons, on va jeûner, on va lire plus la Bible. Vous voyez, ça, c'est la compensation. Ça, c'est une compréhension fausse du salut, une compréhension humaine du salut. Mais ici, on a l'impression que la justice, elle est complètement inversée. Elle change de direction. Elle vient pas de nos efforts à fournir pour aller vers le ciel. Non, non, la justice, elle vient du ciel et elle vient sur nous. Dieu va nous donner, nous imputer sa justice. C'est un peu comme s'il prenait le manteau, la chasuble d'un avocat, vous voyez, cette robe noire avec des grosses manches blanches. C'est comme si Jésus venait nous la poser, nous la mettre et il l'installe sur nous. On reçoit sa justice, pas la nôtre. La sienne. En faisant quoi? Rien. Juste la foi. En saisissant par la foi. Vous allez voir, ça va s'éclairer juste dans le passage après. Je vais reprendre ici l'illustration de la voiture. Imaginons que mon ami n'ait pas pu réparer ma voiture. Et là, je me retrouve donc avec mon véhicule hors la loi quelque part. Mon contrôle technique n'a pas été validé, mais bon, je rentre chez moi, puis je dis, j'ai pas le choix, je vais rouler avec. Et là, pas de chance. Premier rond-point, sur le côté s'il vous plaît. Et là, j'ai affaire à la police. Bien sûr, il me demande mes papiers, je tends mes papiers, il regarde. Votre contrôle technique s'il vous plaît, je vois que là vous avez dépassé la date. Voilà monsieur l'agent, je vous la donne. Ah ok, vous êtes hors la loi mon ami, vous êtes verbalisable. Là, vous n'avez pas le droit de conduire. Ok. Écoutez, monsieur l'agent, je suis étudiant, j'ai pas d'argent. j'ai pas les moyens et donc j'ai pas le choix. Et il dit, oui, mais monsieur, vous êtes hors la loi. Moi, je suis chrétien. J'applique la justice. Et donc, le voilà parti, il remplit un procès verbal. Il me le tend de la main gauche. Puis de la main droite, il sort un billet de 200 francs. Il me dit, vous êtes verbalisable, mais je paye à votre place. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, en fait. Quelqu'un a payé le prix de notre amende. Il a payé le prix à notre place. Et est-ce qu'on méritait l'amende ? Oui ! Mais on ne s'est pas défilé. On a dit, ok, je vais la prendre. On n'a pas nié les faits. On a donné le papier. Il aurait pu le cacher en disant, oh, bah, je ne sais pas, je l'ai perdu. Non, non, non. Je lui ai donné le papier. J'ai dit, ok, ouais. J'ai baissé la tête. Je reconnais. Je suis coupable. Mais je vous en supplie. Et là, c'est la grâce du policier. Vous voyez ? Alors, arrêtez de rêver, hein. C'est juste une métaphore. Je prie que vous rencontriez un chrétien policier. Mais je doute qu'il fasse ça. Quoique. Alors, on poursuit. En quoi cela nous libère-t-il et comment pourriez-vous formuler cet échange ? Eh bien, en fait, ça nous libère d'un poids énorme, en fait. C'est celui de ne pas avoir à payer la dette. Ou bien de devoir prouver sans cesse qu'on est assez bon pour la mériter. Vous voyez ? Pour mériter notre place. Et ça, j'en suis totalement libéré. En fait, on ne conduit plus la vie avec la peur d'être arrêté par le regard de Dieu, mais avec la paix de savoir que la facture a été réglée. C'est extraordinaire, ça c'est libérateur. Allez, on passe au dernier texte, et c'est dans Éphésiens 2, c'est mon passage préféré dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les écrits de Paul. J'aime beaucoup Jacques aussi, mais là, c'est vraiment un passage clé. Alors, on va le lire ensemble, Éphésiens chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, et ça c'est essentiel de comprendre ça, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et là, on a plusieurs questions qui s'en viennent. Comment sont décrits les hommes dans ce texte ? Ben, comme des morts, tout simplement. Alors, on est en vie. Mais spirituellement, on est mort. C'est-à-dire qu'on est séparé de Dieu, on est déconnecté de la vie éternelle, de la vie que Dieu procure. D'accord ? On n'est plus en lien avec Dieu. Donc, spirituellement, on est mort. Et là, un mort, honnêtement, ne peut pas céder lui-même. Hein. Il ne peut pas tourner la clé dans le contact. Il ne peut rien faire. Donc, vous voyez, on a besoin de quelqu'un d'extérieur. Deuxième question, qu'est-ce qui a motivé Dieu ? Et là, on a deux termes qui sont utilisés. Soit, ça dépend les traductions, mais riche en miséricorde, bienfaisance, on va trouver. Et on voit le grand amour. Ça, c'est la motivation de Dieu. Le grand amour. Et c'est uniquement parce que son cœur de père a refusé de nous laisser là. En fait, Dieu intervient dans l'humanité pas parce qu'on est beau et qu'il nous trouve sympa. Non. C'est parce qu'il nous a créés et qu'il veut rentrer en connexion avec nous. Et donc, il nous donne une solution qu'on n'est pas capable de fournir. il vient par amour, par grâce, par compassion. Il descend et il vient nous offrir ça. Comment sommes-nous sauvés? Et ça, c'est la question auquel vous devez vraiment répondre au moins une fois dans votre vie. Et si ce n'est pas fait, répondez-y aujourd'hui. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par le cadeau de Dieu offert gratuitement. Ce cadeau, c'est Jésus. C'est Dieu s'offre lui-même. Hein. Donc le cadeau, on reçoit Jésus. Et il se saisit par la foi. Et là, je vais revenir à mon illustration de départ. Dieu nous offre la voiture. Ça, c'est le cadeau. Et il nous procure la capacité de conduire en nous donnant les clés. Mais il va falloir faire confiance au constructeur. Si je conduis cette voiture en ayant toujours peur que les freins vont lâcher, que le moteur n'y a pas assez d'huile, et qu'on est toujours dans cette crainte, eh bien, on ne bénéficie pas quelque part de ce salut. On doit faire confiance à un moment donné de ce qu'il nous offre, de ce cadeau. C'est pas un cadeau empoisonné. Il nous l'offre gratuitement. Et donc, on doit faire confiance. Et c'est comme ça qu'on saisit ce cadeau. Sinon, c'est pas un cadeau. Si on fait pas confiance, on n'en bénéficie pas quelque part. On est toujours sur nos gardes et on a peur. Non, non, non. On doit rouler avec ce cadeau. On doit marcher par la foi. Là, je dis, on roule par la foi, si vous voulez. Mais c'est ce que nous enseigne la Bible. On doit faire confiance à notre constructeur. Huitième, qu'est-ce que cela change dans une vie? Et là, c'est le verset 10. Hein. Et ça répond, en fait, à cette question. Puisque c'est gratuit, est-ce que je peux conduire n'importe comment? Allez, répondez à cette question. C'est gratuit. Il y en a qui disent, et je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est trop facile, c'est gratuit. Ah, ah. Ah oui, quand mon ami m'a donné sa voiture, elle était gratuite, hein. Il ne m'a pas demandé de payer. Mais est-ce que j'ai fait n'importe quoi avec sa voiture? Parce que je savais qu'elle lui avait coûté très cher, cette voiture. Toutes ses sorties, ses privations personnelles, tout cet argent qu'il a dû mettre de côté, il s'est privé de vacances, il s'est privé de tellement de choses. Je ne pouvais pas cracher dessus. En fait, le salut, les amis, ne nous appartient pas. On est sauvés en espérance. Il nous est prêté. Ensuite, on en jouira pleinement lorsqu'on sera au ciel. Alors, dans la consommation, ce sera génial. Il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus rien. Mais en attendant, il nous est prêté. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le texte dit, en fait, comme je vous ai offert ce cadeau, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez faire des bonnes œuvres. Parce que je vous ai créé pour ça. Donc, vous voyez, un chrétien, il est sauvé par la grâce, mais pour de bonnes œuvres. Et les deux sont inséparables. L'un va prouver l'autre, d'accord? Et il ne faut pas confondre le moyen avec l'objectif. Ok? On est sauvé par la grâce pour de bonnes œuvres. Nos œuvres ne contribuent en rien à notre salut, elles sont simplement le fruit de notre salut. D'accord? Allez, on avance vers la fin. Pourquoi le salut est-il offert gratuitement? Il y a une réponse toute simple. Parce que son coût est infini et que personne ne pourrait l'acheter. Personne. Mais c'est aussi pour éviter le troc, le marchandage. Parce que dans toutes les religions, les hommes font du troc. Hein, soit ils font du troc avec Dieu ou avec leur divinité. Donc ils vont acheter la clémence des dieux en faisant des petites offrandes. Ils vont donner de l'argent, ils vont faire des pèlerinages. Ils vont faire toutes sortes de choses pour essayer d'apaiser la colère de Dieu ou pour essayer de gagner le ciel. En fait, même les plus zélés, ils vont œuvrer avec acharnement pour arracher un strapontin au ciel. Elle est pas mal cette formule, hein. Et il y en a certains qui raisonnent comme ça. Si je ne tue personne, même avec ma bouche, que je fais bien mon travail, même quand mon chef est absent, que je suis fidèle à mon épouse, même si je suis accro à la porno, que je ne bois pas d'alcool la semaine, seulement le week-end, alors Dieu me donnera une bonne santé, un travail bien rémunéré, une épouse ou un époux beau, riche et intelligent. C'est comme ça que la plupart des gens raisonnent. Et les plus zélés, eux, ils se disent, mais si j'ai été baptisé, si je suis allé au culte ou à la messe chaque dimanche, alors là, ça sera mieux qu'un strapontin. Je serai à côté de Dieu. Mais ça fonctionne pas ainsi dans la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible. Celui qui donne la solution, c'est Jésus. Il l'offre. C'est pas du troc. On peut pas acheter notre salut. C'est un cadeau gratuit. Et revenons à mon illustration de départ avec mon ami. Imaginons que je passe toute la semaine avec sa voiture. C'est ce qui s'est passé, hein. J'ai passé toute la semaine avec sa voiture. Par la grâce de Dieu, je l'ai pas égratigné. D'accord? Et donc, j'arrive et je lui dis, écoute, elle est formidable ta voiture, vraiment, génial. Je sais pas comment faire pour te remercier, mais en fait, je veux te l'acheter. Et puis, j'ai 10 francs dans ma poche et je lui tends 10 francs, je lui donne, tiens, je te l'achète. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bon, déjà, elle est pas à vendre. Mais c'est une offense terrible. Il me l'a prêtée, il me l'a offerte. Et moi, je veux lui acheter pour 10 balles. Non, mais t'es sérieux, là? En fait, c'est ce qu'on fait avec Dieu quand on veut troquer notre salut, parce qu'on n'a absolument aucune idée de ce que ça coûte. Le coût est infini. C'est le Créateur qui est mort. Un Créateur infini, dette infinie. Des milliards, de milliards, de milliards que tu ne pourras jamais, et même tous ensemble réunis, on ne pourra jamais payer cette dette. Parce que c'est lui, c'est pour ça qu'il est venu. C'est parce que la dette, on ne peut pas la rembourser. Et c'est une terrible offense si on vient avec un billet en lui disant, tiens, je vais racheter ta dette. Vous voyez? Ça, c'est une terrible offense. Et en fait, si on fait ça, on n'est plus son frère, on n'est pas des amis, on devient des clients. Et donc un client, c'est exigeant. Si je t'ai donné ça, tu mérites, je mérite donc ça, vous voyez? On est dans la négoce en permanence. C'est pour ça que le salut est offert gratuitement. Pour qu'on ne puisse pas négocier et qu'on ne puisse pas se vanter non plus. Allez, je vais m'arrêter ici. Il y a encore deux questions, mais je pense que vous y répondrez tout seul à la maison. Ce message est fort, mes amis. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce Dieu-là. Ce Dieu qui offre un salut éternel, mais un salut totalement acquis, entièrement gratuit, que personne ne mérite, pas plus le pasteur ou les diacres ou qui que ce soit, ni le pape. Et avant, on aurait dit ni l'abbé Pierre, mais là, on en est certain aujourd'hui. Personne. Personne. Vous avez vu ce que dit Romain ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de sa présence éternelle. C'est ça la gloire de Dieu. On en est privés tous. Il n'y en a pas un dans cette salle qui la mérite. Par contre, dans cette salle, j'espère que vous avez revêtu cette chasuble de la justice de Christ. Parce que il veut nous l'offrir. Mais venez pas, s'il vous plaît, avec votre billet de 10 francs pour négocier votre salut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Saisissez-le par la foi, tout simplement. Ok, je veux faire confiance à ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Tu es mort, vraiment mort, corporellement mort. Et tu es ressuscité, corporellement ressuscité. Tu as un corps glorieux qui me montre que tu as vaincu le péché, que tu as vaincu la mort et tu me donnes une espérance certaine d'aller au ciel. Je vous invite à faire cette prière avec moi si vous le voulez. Il n'y a aucune pression. Mais je vous demande d'incliner juste vos têtes et de prier avec moi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur, tu ne mets aucune autre condition que la foi ici. Tu offres un salut éternel, mais tu nous demandes de le saisir par la foi. Je te prie que tu donnes cette foi à celui ou celle ce matin qui n'a pas encore saisi ce message-là, qui ne se l'est pas approprié. Seigneur, c'est pas un ticket pour le ciel, c'est une personne que l'on rejoint au ciel. Une personne qui a payé un prix infini pour nous racheter. Seigneur, c'est un cadeau tellement extraordinaire. Je veux te prier pour que tu donnes cette sensibilité, que ce soit ton Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et que si ce matin, on sort de cette salle, qu'on soit assuré qu'on sera avec toi au ciel, comme ce brigand sur la croix. Seigneur, merci pour ce privilège de nous avoir rachetés. Je prends à peine conscience de ce salut, de cette grâce immense. Et justement, parce que j'ai compris ça, alors je veux vivre pour toi. Je veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre cette réalité de la foi. Par l'Esprit, pas avec mes propres forces, en donnant le minimum syndical, mais par l'Esprit, en donnant le maximum d'une manière radicale. Aide-nous à vivre l'Évangile comme tu l'enseignes, Seigneur. Aide-nous à vivre l'Évangile avec l'Esprit Saint en nous. On a une force surnaturelle, une capacité de résilience, une capacité à donner qui n'est pas humaine, alors aide-nous à le faire. Et il n'y a rien d'imposé, tu ne nous imposes rien, c'est nous qui devons le sortir, Seigneur. Et je veux que ce soit très clair à ce sujet-là, Seigneur. Aide-nous à vivre ce que tu veux que l'on vive. Et je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.